English USA vous présente African Voices in Conversation, des conversations en anglais qui ont attrait à la vie quotidienne au Sénégal. Pour télécharger ces leçons, allez sur le site internet www.lavoixdelamérique.com, cliquez sur « Apprenez l'anglais » et retrouvez les leçons d'anglais spéciales Sénégal. Bala est le tailleur le plus populaire de son quartier. Aujourd'hui, sa cliente et cousine, Rama, lui rend visite. Nous allons écouter cet entretien plutôt tendu. Vous répondrez par vrai ou faux, true or false, à ces énoncés. 1. Rama voulait une jupe. 2. Le boubou est pour la belle-mère de Rama. Vous allez maintenant répondre à ces trois questions. 1. Est-ce que Bala a tenu sa promesse? 2. Pour qui sont les boubous selon Bala? 3. Est-ce que Bala a déjà fait le boubou pour Rama? Vous entendrez comment exprimer un choix avec « I'd like to ». Vous entendrez comment se plaindre en utilisant l'expression « n'est-ce pas » en anglais? Nous allons écouter cet entretien plutôt tendu.
Hello, Bala. I want you to show me all your styles. Have you got catalogs? Let me see them.
Right away. My customers are all kings and queens in this shop.
Oh, Bala, stop it. You haven't finished my dress, have you?
I'm at the service of my royal clients. I do things the way they want it.
What is this? Is this a dress or a skirt? It looks like a child's dress.
It's not. It's a young girl's mini dress with beads and a scarf.
How lovely. It's very nice. I'd like you to make me a dress like this with flashing beads and colorful embroidery.
Like a rainbow. Is it going to be for you or for your daughter?
For me. I have no daughter and my son is only 2 years old. I am still young.
Don't get angry now, Rama. I'm gonna make it.
Before I forget, where is the boubou I asked you to make last week?
Rama, you've got so many fabrics here. You always change your mind, don't you?
I told you to make a boubou from the wax fabric I brought last week. You didn't keep your promise, did you?
It will be ready tomorrow. It's for your old grandmother, right?
I told you it was for my mother-in-law. Instead of a mini dress, I'd like a mini skirt. And don't forget my mother-in-law. I'd also like an evening gown for her.
What does your mother-in-law need an evening gown for?
Come on, Bala. She's not that old. She's going to see her husband after 4 years of separation.
All right, then. I'll make it. Anything for love. Say, Rama, your father-in-law needs a boubou as well, doesn't he? I can make one for tomorrow.
Ya Allah. So many things to make. You don't want to be overworked, do you?
Hey, as long as I get paid.
Vous avez entendu dans ce dialogue Bala et Rama. L'énoncé 1 est faux. Rama voulait une jupe. L'énoncé 2 est vrai. Le boubou est pour la belle-mère de Rama. Voilà les réponses aux questions. 1. Est-ce que Bala a tenu sa promesse? Non. 2. Pour qui sont les boubous, selon Bala? Pour les personnes âgées. 3. Est-ce que Bala a déjà fait le boubou pour Rama? Pas encore. Vous avez entendu Rama dire
« I'd like a mini skirt ».
On peut exprimer un choix en utilisant l'expression « I'd like ». Écoutez les autres exemples. « I'd like to take the red dress ». I'd like to visit the stadium, not the school. I'd like to drink tea. I don't drink coffee. Vous avez aussi entendu Rama et Bala dire
You haven't finished my dress, have you?
You always change your mind, don't you?
Pour dire n'est-ce pas, en anglais, elle a utilisé le tag question ou forme n'est-ce pas. Lorsque la phrase est négative, le tag question est affirmatif. Lorsque la phrase est affirmative, par contre, le tag question est négatif. Voilà des autres exemples. Rama was angry, wasn't she? Bala made the dress, didn't he? Répétez maintenant ce vocabulaire de la couture et de la mode. Modèle, styles. Jupe, skirt. Foulard, scarf. Robe, dress or gown. Perle, beads. Broderie, embroidery. Vous avez entendu dans ce dialogue Bala et Rama exprimer un choix avec I'd like to. Vous avez aussi entendu comment dire « n'est-ce pas » en anglais et entendu des mots relatifs aux vêtements. On se donne rendez-vous chez Bala, le tailleur. Pour plus de renseignements au sujet des cours d'anglais, Learning English, allez au site Internet suivant à americanenglish.state.gov ou à voalearningenglish.com. Welcome to Business English. Bienvenue à notre émission consacrée à l'anglais commercial aux États-Unis. Dans ce programme, vous participerez à des voyages d'affaires, à des conversations téléphoniques, à l'échange de messages e-mail et à des interviews. Au micro, Michel Joseph. Deux questions d'étiquette dans le milieu des affaires. Première question, les Américains dans les milieux d'affaires utilisent-ils leur prénom ou leur nom de famille?
Do Americans usually use their first name or last name in business?
First name, c'est le prénom. My first name is Michelle. Last name, nom de famille. My last name is Joseph. What is your first name?
Quel est votre prénom? À vous de me répondre.
What is your first name? What is your last name?
Quel est votre nom de famille? Répondez-moi.
What is your last name?
Comme vous allez entendre, pour Gary, c'est une question difficile.
This is a difficult question. To be safe, use the name that the other person gives you.
This is a difficult question. C'est une question difficile. To be safe, use the name that the other person gives you. Pour être sûr de ne pas faire une gaffe, to be safe, donnez-lui le nom qu'il ou elle se donne, le prénom ou le nom de famille. Gary dit, quand il se présente, Please, call me Gary. Veuillez m'appeler Gary. Please, call me Gary. C'est ainsi que vous donnez la permission à l'autre personne de vous appeler d'une certaine façon. Écoutons la conversation qui suit à propos de la première question.
Hi, Elizabeth.
Hello, Gary. Our listeners have sent in some email questions, Gary. Our first question is, do Americans usually use their first name or last name in business?
Well, this is a difficult question. To be safe, use the name that the other person gives you. I always say, please call me Gary.
Gary dit, I always say, je dis toujours, always. I always say, please call me Gary. Littéralement, s'il vous plaît, s'il te plaît, appelle-moi Gary. Appelle-moi Gary. Please call me Miss Joseph. Please call me Mrs. Joseph. Ce qui nous amène à la prochaine question d'étiquette. Elizabeth demande à Gary, When speaking with women in business, quand on parle à des femmes dans un contexte d'affaires ou professionnel,
When speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs. or Ms.
When should we use... Quand doit-on se servir de... When should we use Miss, Mrs. or Ms. Miss, mademoiselle, ou, comme le dit Gary, for single women, pour les femmes célibataires. Single women. Les femmes célibataires, Miss. Ou bien, Mrs., madame, for married women, pour les femmes mariées. For married women.
Well, Miss is for single women. Mrs. is for married women.
Ou encore, Ms. Un mot nouveau qui est neutre et n'implique pas le statut de célibataire ou de marié à la femme en question.
Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married.
Écoutez la conversation qui suit.
Our next question is, when speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs. or Ms.?
Well, Miss is for single women. Mrs. is for married women. Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married. I always use Ms. because with Ms. I usually don't offend people.
What do most American women in business prefer?
I believe that most American women prefer Ms.
Thank you, Gary.
Finissez la phrase. Vous allez entendre le début et vous devez terminer la phrase. Écoutez et finissez la phrase.
Some people use their first name in business, but others prefer to use their last name.
Le nom de famille.
They prefer to use their last name.
Le nom de famille.
Most American women prefer to be addressed as Ms. They prefer to be addressed as Ms.
Ms, c'est neutre.
In the past, people used to address all married women as Mrs.
Et c'est tout pour cette leçon de Business English, l'anglais commercial. That's it for today. Until next time, à la prochaine fois. Au micro, Michel Joseph. Goodbye. And welcome to lesson number 86 of English USA. Bonjour et bienvenue à la leçon numéro 86 d'English USA. Aujourd'hui, Martin Lerner fait une interview avec un professeur d'histoire. Today, Martin Lerner is interviewing a history professor. Il lui pose des questions sur la guerre civile américaine. He's asking him questions on the American Civil War. Tous les deux se trouvent dans un champ de bataille. They are in a battlefield. Au cours de cette leçon, vous apprendrez à comparer des événements différents, dans le présent, dans le passé et dans une même époque. English USA est diffusé en direct de Washington au micro Michel Joseph. Vous allez apprendre à comparer des événements qui se sont déroulés dans le passé. Martin Lerner parle avec un professeur d'histoire américaine, a professor of American history, au sujet de la guerre civile, about the Civil War. Il dit, a group says the reason was slavery. Un groupe de gens disent que la raison de cette guerre était l'esclavage. A group says the reason was slavery. Some say it was economics. Certains disent que c'était à cause de raisons économiques. Some say it was economics. Lors de la guerre civile américaine, on appelait les habitants du Nord the Northerners. Et ceux du Sud, the Confederates. Écoutons maintenant la conversation entre Martin et le professeur.
I wanted you to see the battlefield.
I see what you mean. It's just open area.
It was fields. There were farms here and a few houses.
Where did the battles take place?
Everywhere you can see. Soldiers from the north were on that hill. Soldiers from the south were over there, somewhere in front of those woods.
In fact, where those men are right now.
Yes, those men who are firing guns are acting out the early part of the battle. They are pretending to be soldiers during the Civil War.
Professor Atkins, why did the war begin?
That's a very difficult question. People seldom agree on the reasons for a war. Historians are still arguing about the reasons for the Civil War.
I suppose there are usually many reasons.
Yes. One group says the reason was slavery, another group says it was politics, and another group says it was economics.
That's quite a few reasons.
We look at those reasons differently, too. At the time of the war, people saw them one way, now we see them another way.
Let's talk about the people. I'm always interested in people. Tell me about the people first.
We know quite a lot about the soldiers. There were so many.
How many?
There were about 4 million soldiers.
From both sides, the North and the South?
Yes. But remember, they were all Americans.
Of course. That seems like a lot.
It was. More than 600,000 soldiers died in the war. In the Civil War, the fighting usually took place in open areas, like this.
Explain that, please.
The battles were often on farms. The soldiers were on hills and in valleys. They didn't fight in the cities.
In modern wars, they fight everywhere.
Pour comparer deux événements, on les place dans une période déterminée. Lorsqu'on parle, par exemple, de Civil War, et on dit de la guerre civile, et on dit « More than 600,000 soldiers died ». Plus de 600 000 soldats sont morts. On peut aussi parler d'une autre guerre et du nombre de soldats tués par rapport à celle-ci. Par exemple, « In the Civil War », More than 600,000 soldiers died. In the First World War, dans la Première Guerre mondiale, un tel autre nombre sont morts. Écoutez les exemples qui suivent.
In the Civil War, more than 600,000 soldiers died. More recent wars have been worse for civilians. In the Civil War, the fighting usually took place in open areas. In modern wars, they fight everywhere.
Répondez aux questions de Martin et commencez vos réponses en mentionnant une période déterminée. Il vous demandera, par exemple, « Where were you living 1 year ago? » Où viviez-vous il y a un an?
More than 600,000 died in the Civil War.
About 116,000 died in World War I.
Most of the battles were in Europe.
There were none in the U.S.
Essayez de répondre aux questions de Martin, mais écoutez d'abord l'exemple qui vous est donné. L'exemple. Martin dit quelque chose et le professeur répond aussi en disant quelque chose d'autre. Toujours en parlant dans le passé. Donc c'est une comparaison. 45 people lived in this building. 45 personnes vivaient dans ce bâtiment. Le professeur dit lui aussi. 15 people lived in that building. Une quinzaine de personnes vivaient dans ce bâtiment. Maintenant, à vous d'essayer.
45 people lived in this building.
15 people lived in that building.
On Monday, I go to work.
On Monday, I go to work. Vous pouviez dire, on Friday, I go to work.
I lived in Chicago.
Et vous pouvez répondre, I lived in Kinshasa.
On Friday, we went to town.
Et vous pouvez dire, on Saturday we went to town. And that's it for lesson number 86 of English USA. Nous arrivons à la fin de la leçon 86 d'English USA. Vous pourrez maintenant comparer la guerre civile américaine, peut-être, avec une guerre française ou une guerre africaine. Mais ne pensant même pas à la guerre, on entend souvent dire que tout change. Vos parents, par exemple, vos grands-parents, décrivent leur vie, leur enfance, comme si c'était un autre monde. Et ils ont raison, la vie change rapidement. Donc, au lieu de faire la comparaison d'une guerre, pensez plutôt à votre vie en la comparant à celle de vos parents ou à celle de vos grands-parents. Comparez les changements que vous observez. In the meantime, entre-temps, have a great practice. Goodbye.
Et maintenant, un message international du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis ont augmenté leur offre de récompense pour les informations sur les figures de proue des groupes commettant des attentats terroristes dans le Sahel et d'autres régions d'Afrique du Nord. Mukhtar Belmukhtar est le fondateur et chef de la brigade Khaled Abu al-Abbas, également connu sous le nom de bataillon des signataires par le sang. Sous son commandement, le groupe a mené en janvier 2013 une attaque meurtrière contre le site d'exploitation gazière d'Al-Amenas en Algérie. Au moins 37 otages, dont 4 Américains, ont été tués dans l'attaque. Mukhtar Belmukhtar a servi dans l'armée algérienne et a été plus tard un haut commandant d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, prenant part à de nombreuses attaques terroristes et enlèvements d'Occidentaux. En juin 2004, un tribunal algérien l'a condamné à mort par contumace pour formation de groupes terroristes, vol et utilisation d'armes illégales. Il fait également l'objet de sanctions du département américain du Trésor et de l'Organisation des Nations Unies. Né le 1er juin 1972 à Gardaïa, en Algérie, Belmukhtar a les cheveux noirs et est borgne. Il a utilisé les noms d'emprunt d'Abu al-Abbas et Mr. Marlboro. Le programme Reward for Justice offre une récompense pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information menant à la localisation de Belmukhtar. Les États-Unis promettent que toutes les informations crédibles seront étudiées en toute confidentialité. Le cas échéant, les États-Unis sont prêts à protéger les informateurs et leurs familles en les réinstallant ailleurs. Si vous avez des informations sur cet homme, contactez l'ambassade des États-Unis ou le consulat américain le plus proche. Vous pouvez aussi fournir les informations au site www.rewardsforjustice.net ou par email à rfj@state.gov.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
De nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.